Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est un podcast, une émission radio qui donne la parole aux gens que je rencontre autour de moi. Donc des gens, des émissions en lien avec le voyage, une émission en lien avec l'interculturalité. Une émission qui donne la parole à tous ces gens qui ont un parcours de vie un peu particulier. Et on m'a parlé de toi, Vera, donc j'ai voulu te rencontrer. Je sais encore pas grand-chose, si ce n'est que tu es libanaise d'origine, mais que tu as grandi en Arabie, que tu es née et que tu as grandi en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est un pays qui est encore peu connu, ou en tout cas l'image qu'on a de l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose de très fermé. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre le temps de te rencontrer et savoir un petit peu déjà qui tu es et comment est-ce qu'on est de parents libanais en Arabie Saoudite. Que s'est-il passé ?
Bonjour Alexandre, merci pour cet épisode. Je m'appelle Vera Noun. Je suis libanaise, mais moi je dis je suis méditerranéenne. C'est l'identité que j'aime bien porter avec moi. Je suis née en Arabie Saoudite parce que mes parents ont déménagé en Arabie pendant la guerre libanaise, donc pendant la guerre civile libanaise, donc la fin des années 80. Et voilà, ils ont fui la situation difficile, la guerre, les meurtres, les massacres, etc. Et ils se sont installés en Arabie, effectivement. Au début, c'était juste pour vivre quelques années, le temps que la guerre se termine. Mais voilà, mon père y est toujours. Et moi, j'ai vécu 15 ans en Arabie. Donc, ce qui est supposé être une petite période a en fait duré une vie, quoi. Donc voilà, moi, j'ai une sœur et un frère. Et on a vécu pendant environ 18 ans en total, entre ma sœur 18 ans, moi 15 ans et mon petit frère 12 ans.
Alors, on va revenir sur cette partie de ta vie, évidemment, sur l'Arabie Saoudite, le pays où tu es né, où tu as grandi. Tu t'exprimes avec nous dans un français incroyable. On va comprendre aussi pourquoi, parce qu'en fait, tu as grandi dans ce qu'on appelle les écoles françaises. Donc, c'est aussi un microcosme très particulier. Tu nous dis que tes parents ont quitté la guerre au Liban dans les années 80. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passait? Quel était le conflit? Quelle était la problématique dans les années 80?
Alors, la guerre a été déclenchée en 1975. Et a duré jusqu'en 1991, donc c'est l'année de ma naissance. En fait, la guerre s'est transformée, il y a eu plusieurs phases de la guerre. Je ne suis pas historienne, donc, et en plus, il n'y a pas encore de consensus sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc, il n'y a pas vraiment une histoire commune qui nous est enseignée dans l'école. Mais ce que je peux dire, que ça a commencé avec un conflit avec des partis palestiniens contre des partis politiques chrétiens. Après, au cours de la guerre, avec toutes les interventions internationales, tout ce qui a été, les différents massacres qui ont pris place, c'est un peu divisé entre chrétiens et musulmans. Il y avait les Syriens qui faisaient partie de la guerre, les Palestiniens, après l'Israël, après quelques pays arabes. Donc, ça s'est compliqué. Ça s'est fini en 91 avec un accord. Est-ce qu'on a eu réconciliation? Pas vraiment, parce que ça a été terminé un peu rapidement et il n'y a pas eu de reconstruction d'identité commune comme ce qui a été fait entre la France et l'Allemagne, par exemple. Donc, même si la guerre a fini en 91, en fait, elle persiste aujourd'hui sous d'autres formes. C'est pour ça qu'il y a toujours de l'instabilité, on a toujours des problèmes d'identité, il y a toujours des interventions internationales. Donc je trouve que même si elle a fini, mais les impacts continuent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc mon père a été combattant. Je ne pourrais pas donner beaucoup plus d'informations parce que voilà, il y a un peu de confidentialité dans ce point de vue-là. Mais il voulait échapper à cette vie de combattant qui lui a été attribuée presque immédiatement dès qu'il a eu 18 ans. Donc, il était d'abord dans l'armée libanaise. Après, il faisait partie des quelques milices politiques pendant la guerre. Et donc, c'est tout ce qu'il a connu. Et au bout d'un moment, il s'est dit « je ne veux plus cette vie et je veux sortir de cette vie ». Et la seule façon qu'il pouvait faire ça, c'était de sortir du pays.
Et là, donc, il choisit de quitter le Liban pour aller en Arabie Saoudite. Alors, tu disais que ton papa, je crois, est chrétien. Donc, pourquoi est-ce qu'il choisit l'Arabie Saoudite comme pays d'exil, qui est un pays plutôt musulman?
Alors, vu qu'on a... Voilà, le passeport libanais ne permet pas trop de déplacements autour du monde. Donc, il y a quelques... Les choix sont limités pour où aller travailler, où aller continuer sa vie. Et en plus, pendant cette période-là, l'Arabie Saoudite était en période de développement. Donc il y avait beaucoup d'opportunités de travail, il y avait beaucoup de grandes multinationales qui s'installaient, qui ramenaient des expertises de partout dans le monde. Et on avait un peu, je pense qu'on avait de la famille qui est déjà en Arabie. Donc mon père a suivi un membre de la famille qui l'a aidé à trouver un travail en Arabie. Donc c'était un choix un peu, c'était pas un choix libre, c'était plutôt les options qui étaient assez limitées. Et en même temps, l'opportunité qui s'est portée devant lui.
Et comment est-ce qu'il a réussi à s'intégrer, à s'insérer en Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'il a fait comme métier là-bas? Comment est-ce qu'on trouve sa place dans un pays dans lequel on arrive avec une culture très différente de celle qu'on découvre?
C'est un peu compliqué. Alors, du coup, quand tu arrives en Arabie, il y a une liste de lois qui t'est présentée que tu dois accepter si tu veux vivre dans ce pays-là. Donc... En tant que chrétien, on n'a pas le droit de pratiquer notre religion en public. La femme doit être voilée. Il y a plusieurs restrictions de mode de vie. On ne peut pas fumer, par exemple, pendant le ramadan à l'extérieur. Les femmes ne peuvent pas sortir sans l'accompagnant mâle, son mari, son frère, etc. Donc, c'était une liste de restrictions qui a été imposée et que mes parents ont acceptée. Parce que parfois, tu acceptes ça parce que c'est mieux de ce que tu as déjà et qui est la guerre. Donc, ils ont accepté ça. Ils ont d'abord vécu dans une ville qui est très, très, très renfermée. Donc, culturellement, c'était très, beaucoup plus restreint que Riyad, la capitale.
Et quand tu parles de liste de règles, donc là, c'est vraiment une loi islamique, enfin, une loi religieuse.
Oui, exactement. En fait, c'est la loi qui domine, en fait, la loi religieuse, même pour les procès, même pour tout ce qui est dans le judiciaire, c'est vraiment la loi religieuse qui est appliquée. Et c'est cette loi, voilà, qui est appliquée sur les étrangers qui décident d'habiter là-bas. Donc, en tant que chrétien, on doit accepter qu'on ne peut pas porter notre croix en public, on ne peut pas porter les vêtements qu'on veut, il faut être un peu plus modeste, porter l'abaya, couvrir le visage. Au Qassim, on peut seulement montrer les yeux. Donc, ma mère, dans ses photos, quand je suis née, elle avait l'abaya avec les yeux, juste les yeux qui se montraient. Donc, c'était très strict. Et encore en Arabie, pour travailler, tu es sous le système de kafala, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ton existence, entre guillemets. Donc, il ne peut pas sortir ou rentrer dans le pays sans le OK de cette personne-là. Ton permis de séjour est lié à cette personne-là, donc tu es un peu contrôlé quoi, par la personne chez qui tu travailles, donc ton kafil. Et donc, mon père a fait plusieurs métiers, par-ci, par-là, c'était un peu compliqué, disons. On n'était pas toujours en période de stabilité. Finalement, voilà, il travaille en ce moment avec un prince saoudien. Il est encore à Riyad en ce moment-là.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais ton père a quand même pu vous offrir, ses trois enfants, hein, c'est ça, vous êtes trois, la possibilité d'aller dans une école française. Donc j'aimerais qu'on ouvre un peu cette partie de ta vie, parce que tu nais donc d'origine libanaise, tu nais en Arabie Saoudite. Et comment est-ce que tu atterris dans une école française?
Alors, mes parents étaient très axés éducation. Pour eux, c'était une priorité. Une partie, c'est parce qu'ils n'ont pas pu continuer leur propre éducation à cause de la guerre. Donc, ils savaient que c'était un outil qu'ils voulaient nous donner. Et deuxièmement, c'est notre communauté, c'est notre culture. Mes parents, ma mère est trilingue, mon père presque trilingue. Et ça fait partie de notre identité, de notre culture. Donc, l'éducation, c'était primordial. Et pourquoi français? Ben, comme vous savez, le Liban a été sous le mandat français pendant une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, je pense. Et durant ce mandat, il y a eu l'installation de plusieurs missions catholiques françaises. Donc, l'établissement de plusieurs écoles françaises catholiques au Liban. Et ceci a permis la propagation de la langue française. Donc, du coup, le français est devenu une deuxième langue presque au Liban. Particulièrement dans les communautés chrétiennes, mais aussi un peu dans les grandes villes, quoi. Donc, ils voulaient qu'on soit trilingue. Et c'était une des raisons pourquoi ils ont choisi l'école française. Les autres options, c'était soit des écoles saoudiennes, donc très traditionnelles, divisées filles-garçons, on apprend le Coran, etc. Soit les écoles internationales. Donc il y avait école américaine, école anglaise, British School, et l'école française. Donc le choix était surtout pour le côté langue, linguistique et laïque aussi.
Qu'est-ce que c'est que l'école française? Est-ce que tu peux la raconter à celui qui ne connaît pas? Donc là, on est dans une école, dans un pays, donc en Arabie Saoudite, où la langue enseignée est donc le français. Donc qui sont les enfants? D'où viennent-ils? Et parle-moi un peu de cet univers-là, de cette ambiance-là. Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui de cette époque de ta vie quand tu as grandi à l'école française?
Alors, l'école française, c'est un microcosme, comme tu as dit, parce que tu es dans un pays très fermé. Je parle des années 90. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais un pays très fermé, très peu de liberté, très peu de liberté d'expression, liberté de porter ce que tu veux, de te balader tout seul. Et après, tu rentres, donc tu ôtes ton abaya. Moi, je prenais, on était avec mon père, on portait l'abaya sur la route. On arrive à l'école, on ôte l'abaya et on est vraiment dans un territoire français. Et c'est les lois françaises qui s'appliquent dans l'école.
Mais donc tu parles de l'abaya, donc même enfant, tu dois déjà te soumettre aux lois religieuses.
Oui, oui, effectivement. Moi, à 10 ans, à 11 ans, je portais l'abaya. Et même parfois, il y avait les hommes religieux qui me disaient que je dois couvrir ma tête, me voiler et couvrir mon visage. Donc oui, c'est applicable même aux enfants.
Quand tu dis des hommes religieux, c'est une sorte de police religieuse qui est là pour contrôler que les lois islamiques sont bien respectées par la population.
Exactement. Ils s'appellent Mtawa'in. Mutawa, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Et c'était des hommes religieux très stricts et qui se baladaient dans les centres commerciaux, dans les rues, pour imposer ces lois religieuses. Donc, par exemple, si durant l'heure de la prière, il y avait des personnes dans la rue, ils leur criaient dessus, tu dois aller prier. Si une femme avait une mèche de ses cheveux qui se montrait à travers son voile, ils lui disaient si on peut voir les jambes, si un homme portait un short ou ils avaient des boucles d'oreilles ou quoi que ce soit. Donc, n'importe quelle loi qui n'est pas bien appliquée, ils étaient là pour s'assurer qu'on les suive. Et une fois même, j'étais avec mon père dans un centre commercial et j'avais le voile, donc je couvrais ma tête mais pas mon visage. Et un de ces hommes religieux est venu vers mon père et lui dit il faut qu'elle couvre son visage. Donc, ils sont là pour faire ça. Aujourd'hui, ce concept a été un peu changé avec les dernières années.
Et toi, enfant, donc tu nais dans une famille chrétienne, comment tu vis ça, petite fille, de grandir avec l'abaya, quelque chose, une sorte de masque finalement que tu dois mettre en sortant de chez toi, mais qui n'a pas vraiment de sens, puisqu'en rentrant, tu l'enlèves tout de suite, ou en allant à l'école française, tu l'enlèves aussi. Donc qu'est-ce qui te reste, toi? Comment tu vivais cette sorte d'injonction, ou cette sorte de je sais pas, d'incohérence entre ce que tu étais, ce que tu devais montrer à l'extérieur? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que, voilà, comment t'observais? Qu'est-ce qui se passait dans la tête d'une petite fille à cette époque-là?
Alors, quand tu es né dans ce cadre-là et tu ne connais pas l'alternative, pour toi, c'est la norme. Donc, pour moi, c'était la norme. Je suis née, c'était le mode de vie qu'on avait, on vivait comme ça, ok. C'était pas terrible. Mais parfois, c'est bien. Tu portes ton pyjama et tu mets la baya et tu pars au centre commercial. Voilà, c'était. Donc, le fait que j'ai vécu ça dès mon enfance, j'avais pas encore l'autre version de la vie possible. Pour la religion, mes parents, tous les deux, ils sont très croyants et ils voulaient qu'on apprenne la religion. Donc, on avait un coin chez nous avec, voilà, vous savez, avec les petites icônes, les croix, la Bible, etc., les bougies, les incens. Et ils nous ont appris à prier chez nous. Donc, on n'a jamais été dans l'église, mais on avait. Je lisais la Bible depuis que j'avais, je sais pas, 5 ans, depuis que je savais lire. Ils nous apprenaient les petites parties, les petites histoires, la culture, les principes, les valeurs. Donc, on a appris ça chez nous, à la maison. Mais à l'école française, c'était laïque, donc on laissait ça chez nous. C'était pas un sujet de discussion même.
Chez vous, à la maison, c'était comment ? Est-ce que vous étiez avec d'autres expatriés ? Est-ce que vous étiez vraiment entouré de Saoudiens ? Où est-ce que vous habitiez à cette époque-là ?
Bonne question. Alors, on a beaucoup déménagé. Donc, pendant mes 15 ans, je pense qu'on a déménagé 8 fois. Donc, je n'ai pas une maison dans laquelle j'ai grandi, j'en ai plusieurs. On a vécu dans des compounds qui sont comme des territoires, disons, clôturés avec des villas à l'intérieur. Donc, on a 10, 12, 20, 50 villas qui sont ouvertes. Donc, c'est comme un petit village, mais il est clôturé. Et il y a rarement des Saoudiens qui vivent là. Donc, moi, j'étais très rarement en contact avec des Saoudiens durant mon enfance. Très, très rarement. Donc, quand tu es dans un campement, c'est surtout des expatriés comme nous, des autres familles libanaises, un peu de partout dans le monde, quoi. Après, on a vécu dans un appartement, dans des villas séparées. Les villas, donc, tu t'imagines cette maison, mais autour de la maison, il y a un mur de 6 mètres, en fait. Donc, au lieu d'avoir ces paysages, en fait, tu as des murs. Et quand je suis rentrée récemment, j'avais oublié ce concept. En fait, on conduisait dans la rue et je me sentais mal et je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que tu as la rue. Après, tu as des murs. Tu n'as que des murs autour de toi. Il n'y a pas de trottoir avec les arbres et tu vois, tu sais, le voisin sur son balcon. Donc là, c'est aussi la protection de l'intimité, la protection. Il ne faut pas que les hommes voient les femmes, etc. On ne peut pas descendre, jouer dans la rue comme si on était au Liban ou en France. C'était pas très safe et puis voilà, ma mère ne pouvait pas très sortir avec nous toute seule, donc c'était un peu compliqué, disons.
Ouais, ça fait penser un peu à un enfermement là quand tu en parles, avec cette notion de mur tout autour de toi où tu ne peux pas voir ce qui se passe autour de chez soi.
Absolument, absolument. Il n'y a rien à voir déjà parce que derrière le mur, il y a un autre mur. C'est pour ça qu'en fait l'école c'était un genre de liberté, je dirais, mais c'était une ouverture. Parce que c'était une occasion de voir des personnes comme moi qui vivent plus ou moins le même mode de vie et qui ont plus ou moins la même trajectoire de vie. Donc, tu m'avais posé la question, qui sont ces enfants, ces élèves ? Alors, il y a beaucoup d'enfants, des parents qui travaillent dans des ambassades, donc partout dans le monde, des diplomates. Il y avait les personnes qui travaillaient, donc les enseignants. Leurs enfants étaient dans l'école, bien évidemment, et beaucoup d'expatriés comme mon père et ma mère. Donc, c'était très international et il n'y avait pas de Saoudiens à l'école. Je pense qu'il y avait un seul garçon saoudien libanais que je connaissais. Mais sinon, c'était toutes les nationalités du monde, sauf le saoudien.
Pourquoi est-ce que les Saoudiens n'étaient pas mis dans l'école française ? Ça aurait été aussi peut-être une ouverture sur le monde ou une possibilité d'apprendre une nouvelle langue ?
Parce qu'ils ont leur école où ils apprennent leur langue, l'arabe, où ils apprennent l'islam. Aussi, une grande partie des élèves de l'école française sont issus de pays francophones, donc de l'Afrique, un peu du Canada, etc. Donc, après, c'était très cher. Être admis dans l'école française est vraiment un investissement. Et mes parents me disent que c'est leur investissement. Ils n'ont pas de patrimoine, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien acheté, ils n'ont pas de terrain, mais ils ont nous, et c'était l'investissement parce que c'était vraiment très cher d'avoir une éducation dans cette école-là. Parce que c'était la seule école française à Riyad en ce moment-là.
Et seulement ton père travaillait, hein, c'est ça ? Ta mère restait à la maison avec vous pour pouvoir vous élever ? D'ailleurs, je ne suis pas sûre que les femmes avaient le droit de travailler à cette époque-là.
Non, dans le temps, c'était très limité, très 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 limité. Et les femmes, ouais, ne travaillaient pas. Donc ma mère, elle a quitté son travail, elle travaillait au Liban. Et quand ils ont déménagé en Arabie, ben voilà, elle était à la maison.
Donc tout se passait sur le salaire de ton papa, quoi. C'est lui qui a réussi à payer l'éducation et à gérer le loyer et tous les frais nécessaires pour sa famille en vivant en Arabie Saoudite.
Oui, et c'était pas toujours possible en fait. Il y avait des périodes où on n'arrivait plus, on avait des difficultés financières. Donc c'était pas aussi simple que ça, pas du tout.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'école française, donc tu disais que c'est effectivement ce microcosme où ça te permettait d'avoir un peu une sorte de bulle de liberté. Mais je crois que l'aventure dure que 15 ans. Après, tu retournes au Liban, c'est ça ? Donc là, tu grandis avec tous tes amis internationaux, entre francophones, mais c'est là aussi où tu as découvert la diversité culturelle et ethnique.
Exactement, oui. C'était en comparant avec le Liban, parce qu'après, j'ai fait 15 ans en Arabie et puis j'ai fait mes dernières 3 années au Liban. Et j'ai eu un choc culturel, mais inverse en fait, parce que l'école était très diversifiée, de plein d'ethnicité, de religion, de nationalité. Et moi, j'avais 5 ans, 6 ans, c'était la première fois que voilà, je rencontrais des personnes de couleur de peau noire. Et pour moi, c'était bizarre parce que voilà, enfin, c'était pas une chose très commune. Et je savais pas comment c'était. Enfin, et je me souviens qu'on devait prendre la main de l'élève à côté de nous pour monter en classe. Et il y avait une élève qui s'appelait Déti, qui était d'origine éthiopienne, si je me souviens bien. Et pour moi, c'était bizarre. Je savais pas. Je me demandais, ah tiens, elle a une autre couleur. Est-ce que sa peau a une autre texture? Je sais pas. Donc finalement, ouais, on s'est pris la main et c'était la même chose. C'était comme ma main. Et c'était, enfin. Pour moi, c'était très bizarre parce que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un de couleur de peau noire. Et ce n'était pas quelque chose que j'aurais pu vivre au Liban. Parce qu'il n'y a pas cette diversité ethnique au sein des écoles, au moins, ou de l'école dans laquelle j'ai fini. J'ai terminé mes études. Donc, cette exposition à toutes ces cultures, où j'avais des collègues, des élèves qui venaient de l'Inde, du Pakistan, de l'Australie, du Canada. Et on avait cet échange culturel dès notre enfance. Et pour moi, ça m'a beaucoup enrichi. Ça m'a tellement enrichi.
De quelle manière ?
Par exemple, on avait parfois des échanges. Ils nous demandaient de ramener un truc qui provient de notre culture. Et je me souviens qu'une élève du Canada a ramené avec elle du sirop d'érable. Donc voilà, pour moi, au désert, en plein milieu du désert, je goûte le sirop d'érable. Pour moi, c'était très bizarre. J'avais aussi un collègue qui venait du Sénégal, si je me souviens bien. Il avait une cicatrice sur son visage et en fait sa sœur avait la même cicatrice. Et j'ai appris que c'était c'est un truc dans la famille. Ils avaient tous cette même marque dans la famille. Et c'est comme si j'ai voyagé, mais dans ce petit microcosme. C'était très sympa. Et aussi la France, moi j'ai appris la Marseillaise avant l'hymne national libanais. Donc j'ai appris l'histoire de la France, la géographie de la France, tous les fleuves de la France à 10 ans et j'ai même pas appris ceux du Liban en fait. Donc voilà, cet échange est resté avec moi. Et même les langues, en apprenant les langues, parce que on avait donc arabe, français, anglais par défaut et on avait l'accès à apprendre une langue étrangère en compte. Donc j'ai appris l'espagnol aussi à l'école. Il y avait aussi le choix avec l'allemand, j'ai choisi l'espagnol. Et voilà, donc moi je suis arrivée au Liban, je parlais ces langues-là, j'étais exposée à toutes ces cultures, ces ethnicités et dans une école laïque. Et j'ai atterri dans une école catholique à Beyrouth avec des élèves qui sont tous libanais, tous chrétiens. Et voilà, c'était un changement très radical pour moi.
Avant de retourner au Liban, donc on va en parler, hein, parce que c'est vrai, jusqu'à 15 ans, tu grandis en Arabie Saoudite pour te retrouver dans un système éducatif et culturel complètement différent. 15 ans, c'est un peu l'époque charnière, hein, on est ado et c'est une transformation assez profonde, hein, de ce qui se passe autour de toi. Mais avant de parler de cette étape-là de ta vie, je reviens quand même sur l'Arabie Saoudite. Tu disais que tu étais peu en contact avec les Saoudiens. Comment ça se fait ? Parce que dans le quotidien, tu allais quand même au marché, au supermarché ou pas ? Ou comment est-ce qu'on vit ? Parce que tu nous parles de la famille, tu nous parles de l'école, mais il y a quand même. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'on ne puisse pas rencontrer les gens d'un pays. C'est comme si je vais vivre en Allemagne. Ça me paraît très bizarre de ne pas pouvoir avoir de lien avec les Allemands.
Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas se balader dans la rue, dans le quartier ou aller seul au marché. Ça n'existait pas. Comme dit, on pouvait. Mes parents ne nous laissaient pas aller seuls comme ça nous balader dans la rue parce que c'est quand même une ville qui n'est pas la leur et c'est une grande ville et c'est pas aussi simple que ça. Donc ça c'est un. Deux, ma mère n'avait pas cette liberté de sortir seule ou de conduire, elle pouvait pas conduire. Donc on sortait pas autant sans mon père. Donc quand on est en famille, on est en famille. On n'allait pas croiser d'autres personnes. Après, pour aller dans le supermarché ou les magasins, l'épicerie, etc., les personnes qui travaillaient étaient d'autres nationalités. Donc de nationalité indienne, pakistanaise, du Bangladesh et très rarement de saoudien. Donc non, moi j'ai très peu de souvenirs. J'ai parfois des collègues à mon père qui venaient visiter, mais c'est tout. Donc à l'école, rien. Chez nous, très peu de visites. Et quand on sortait, on n'avait pas cet échange. Donc oui, effectivement. Maintenant, après avoir revisité Riyad après 19 ans, ça a un peu changé. Mais dans le temps, pas du tout. Surtout en tant qu'enfant, on n'avait pas... J'ai pas vécu dans le quartier où je connaissais tout le monde, où j'avais la voisine que je connaissais, ou ma tante, ou ma grand-mère, et on nous lâchait comme ça. C'était pas le cas. C'était des étrangers partout, et on sortait pas, on n'avait pas ce mode de vie là du tout.
Quand tu parles aujourd'hui avec ta maman de cette époque-là, comment est-ce que elle a vécu ça ? Parce que elle a connu. Toi, tu es né là-bas, donc finalement. Tout le contexte culturel dans lequel tu as grandi était ton contexte que tu as banalisé parce que c'était ton quotidien. Mais ta maman avait connu une vie avant l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui reste de cette époque, de ces 15 ans qu'elle a passé là-bas en Arabie Saoudite ?
Je ne dirais pas que c'était positif du tout. Je sais que ça l'a très marqué négativement. C'est difficile pour... surtout pour son caractère. Elle est quelqu'un de très vivant. Elle aime la vie, elle aime sortir, elle aime la mer. Elle aime faire la fête, elle aime danser. Et je dirais que ces 15 ans l'ont un peu détruit, marqué négativement, traumatisé, je dirais même, parce qu'elle habitait dans une cage et c'est quelqu'un qui ne peut pas être mis dans une cage. Et je le sens maintenant quand on sort, même au Liban, elle ne peut pas être dans un restaurant fermé, elle doit être dans un endroit qui est ouvert, avec une vue. Et je le sens, je sais que c'est le résultat de vivre 15, même plus, elle a vécu 18 ans ma mère, de vivre 18 ans dans une cage, dans une espèce de cage. Et elle n'avait... Maintenant j'ai quitté moi mon pays, j'habite en France, et j'ai de la chance de pouvoir appeler ma mère tous les jours et mes parents et de visiter le Liban assez souvent. Elle, pendant les années 90, il n'y avait pas le téléphone, ils écrivaient des lettres. Donc elle a été détachée de sa famille. Et la famille, pour nous, c'est l'élément primordial de la culture. Donc je sais que c'était très dur pour elle d'avoir 13 enfants sans avoir le support de la famille. Sans avoir sa mère à côté d'elle qui s'occupe des enfants si elle veut sortir. Sans avoir ses amis, sans avoir ses sœurs, ses frères. Et je sais, ça l'a marqué, mais ça m'a marqué même à moi aussi. Je sais que c'était très, très difficile pour elle. J'espère qu'elle s'en est remise, mais je sais que c'est très difficile.
C'était presque une vie de sacrifice, finalement, où elle s'est mise au service de ses enfants et de son mari.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et elle n'avait pas la capacité de dire, OK, bon... Parce que moi, je lui posais la question, je lui disais, mais pourquoi tu ne laissais... Tu ne laisses pas mon père et tu rentrais au Liban pour vivre avec ta famille. Parce que moi, j'ai ma cousine, elle fait exactement ça. Elle a essayé de vivre en Arabie, elle s'est dit non, ça ne va pas. Elle a pris les enfants, elle retourne au Liban et elle a laissé son mari en Arabie. Parce qu'elle cherchait sa liberté, elle cherchait son épanouissement. Et elle me disait non, parce que dans leur culture, tu sacrifies pour tes enfants. Enfin, elle préférait souffrir pour que nous convivions ensemble en tant que famille, que de tout laisser pour rentrer au Liban. Après, le Liban, c'était encore un pays qui sortait de la guerre, et elle avait laissé ses études, donc c'était pas simple d'aller faire une vie là-bas. Et donc oui, c'était un sacrifice, et je le sais, et je l'apprécie, et je le reconnais.
On parlait de liberté, qu'est-ce que je t'avais posé comme question, je t'avais demandé c'est quoi la liberté ?
Donc, j'avais répondu d'abord, c'était la liberté déjà de déplacement et de vivre et d'aller où est-ce qu'on veut quand on veut, qu'en tant que Libanais, je n'ai pas. Vous, les Européens, les Français, vous êtes nés avec le droit de vous balader dans un continent juste avec votre carte d'identité. Et moi, je ne peux pas. Moi, je suis... On a la Syrie nord-est, il y avait la guerre depuis très longtemps. Et puis au sud, on a Israël et Palestine. Et voilà, après à la mer. Donc on a on n'a pas cette immensité de terrain dans laquelle on peut nous balader. Et j'ai eu beaucoup de difficultés pour voyager avec des problèmes de visa. On m'arrête sur les frontières. Tu retournes, tu n'as pas le droit de monter sur cet avion. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés de ce point de vue-là, même pour des travaux, pour des métiers. Je faisais un entretien. Ouais, trop bien, excellent, ok. Ah, t'es libre. Ah, il faut une visa. Ah non, on ne peut pas. Trouver un appart, même à Colmar, j'avais trouvé un appart. Après, la dame se rendait compte que je suis libanaise, elle a laissé tomber. Donc, je voudrais déjà effacer cet obstacle de déplacement. Donc, ça, c'est un de mes buts. Donc, ça, c'est un des piliers de la liberté, je pense. Après, on parlait de... Voilà, de... Je pense qu'être libre, c'est arrêter de... Voilà, être bien dans sa peau et arrêter d'échapper. Et arrêter de faire des choix parce qu'on échappe, mais plutôt faire des choix parce qu'on cherche. Donc, je voudrais être bien dans ma peau et bien choisir parce que je veux, pas parce que je dois.
Vera Hanoun, merci beaucoup. Merci à toi et bienvenue ici en France parmi nous.
Merci Alexandre. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.